Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur Canal Académie, la voix des académies, pour cette émission Éclairage qui vous propose de réfléchir sur la famille et plus précisément sur la politique en faveur de la famille. Le droit a dû se transformer ces temps derniers. La politique, elle, semble avoir du mal à résoudre la crise de la famille. Et pour nous aider dans cette réflexion, j'ai le plaisir de recevoir Madame Evelyne Sulraud, sociologue et membre correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques. Madame Sulraud, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes sociologue, journaliste, écrivain et vous n'avez cessé tout au long de votre carrière, en vérité, de vous intéresser à la famille. Je veux seulement rappeler que vous êtes cofondatrice du planning familial et que vous avez longtemps siégé au Haut Conseil de la population et de la famille. Et vous aviez dernièrement alerté déjà sur la crise que traverse la famille en ce dernier demi-siècle et à l'aube du siècle qui arrive, en publiant un livre qui s'intitulait justement « La crise de la famille ». C'était en l'an 2000. Alors cette année, je puis dire que vous récidivez, si on peut dire, mais en répondant cette fois à une demande, celle de Monsieur le Premier ministre, qui vous a chargé, avec Monsieur Michel Godet, professeur au CNAM, d'établir un rapport pour le Conseil d'analyse économique. Et ce rapport est intitulé « La famille, une affaire publique ». Il a été présenté au Premier ministre en juillet 2005 et il vient d'être publié à la fin de cette année 2005 à la Documentation française. Juste un mot, Madame Sulraud, que vous me permettrez, avant de vous laisser la parole, de dire et de préciser ce qu'est ce Conseil d'analyse économique, CAE, et sa méthode de travail. C'est une instance pluraliste qui est composée d'économistes reconnus avec des sensibilités diverses. Il comporte une trentaine de membres nommés à titre personnel, dont plusieurs membres étrangers et 6 membres de droit. Il est présidé par M. Dominique de Villepin, donc Premier ministre, et par président délégué M. Christian de Boissieu. Alors, ce Conseil d'analyse économique, comme le nom l'indique, il porte un regard sur les situations, mais principalement économiques. Alors, quel a été votre rôle à vous, Madame Sulraud, qui êtes sociologue au sein de tous ces économistes?
Ce rapport, La famille, une affaire publique, est signé de Michel Godet, économiste. Vous avez dit professeur au CNAM, oui, mais économiste.
Oui.
Et en même temps, membre lui-même du Conseil d'analyse économique.
Oui.
Et c'est Michel Godet qui, voulant faire un rapport donc à teneur économique, s'est adressé à moi, parce que nous nous connaissions depuis longtemps, qu'il lisait mes œuvres, etc., afin que je puisse mettre un peu de chair sociologique, si je puis dire, dans un rapport économique, que nous voyions ensemble quelle était la problématique de la famille à l'heure actuelle, analysée d'un point de vue économique et surtout analysée du point de vue de l'État. Qu'est-ce que l'État peut faire et doit faire pour la famille, étant donné la situation sociologique
actuelle,
dans laquelle elle
voilà.
est.
Alors, ce groupe de travail, Madame Sulraud, il était réellement pluridisciplinaire, c'est-à-dire il n'y avait pas donc que des économistes. Et comment avez-vous fonctionné? Comment avez-vous travaillé?
Alors, Michel Godet et moi, nous avons travaillé ensemble, naturellement, mais en même temps, nous avons pu faire de nombreuses réunions où nous avons auditionné et discuté les contributions d'environ 20 personnes, à la fois des économistes, des démographes, des sociologues, sur certains sujets particuliers. Par exemple, je vais faire allusion à ce que les enfants de familles séparées réussissent moins bien à l'école, ou que les enfants pauvres ne sont pas vraiment bien sauvés par l'école. Nous avons auditionné 4 ou 5
spécialistes
de l'école.
Sûr.
Vous voyez, voilà. En même temps, beaucoup sur la conciliation vie familiale, vie professionnelle, etc., etc. C'était très, très pluridisciplinaire.
Au fond, la famille, ça n'est jamais un sujet isolé. Et vous avez dit que ce n'est donc pas une affaire privée uniquement, mais c'est bien une affaire publique. Dans quelle mesure, justement, la famille est-elle privée ou publique?
Alors, par exemple, il n'y a pas à l'Union européenne de direction de la famille. Pourquoi ? Parce que certains pays, comme la Grande-Bretagne, s'y opposent toujours en disant que c'est une affaire privée. Mais en réalité, il y a des politiques familiales dans tous les pays. Et en France, il y a eu une conscience de l'intérêt national de la France, par exemple, pour la démographie, étant donné que la France avait vieilli beaucoup plus rapidement que les autres pays et que, à la Libération, j'aurai l'occasion d'en reparler, nous avons eu en France une superbe politique familiale dont d'ailleurs nous avons encore les bénéfices aujourd'hui.
Alors dans ce rapport, Madame Sullerot, vous formulez aussi bien des propositions, des priorités, des objectifs. C'est un rapport épais, il est dense, il y a beaucoup d'éléments et beaucoup de choses à lire, beaucoup de chiffres aussi, parce que votre travail s'appuie évidemment sur des données. Si vous aviez à le résumer, comment pourriez-vous nous le résumer pour aborder les principaux points et en tout cas les principales propositions que vous souhaitez formuler pour la famille ?
Alors, disons que la première, c'est justement la priorité à l'action politique. Parce que s'il y a un domaine où l'action est nécessaire parce que le temps perdu ne se rattrape pas, c'est la politique de la famille. La politique de la famille va conditionner la démographie et donc l'économie, parce que là, nous sommes très nets là-dessus, il n'y a pas de développement durable sans enfants. Et d'autre part, la famille va assurer la cohésion sociale. Et on s'en aperçoit, quand on veut réparer les carences familiales, ça coûte extrêmement cher et ça n'a que des résultats piètres. Et donc, je voudrais dire d'emblée que si on laisse filer l'indice de fécondité, c'est-à-dire qu'on est en dessous du niveau de remplacement des générations, et si on laisse se détricoter le tissu familial, on va le payer très cher. Encore faut-il, pour choisir une politique de la famille, oser formuler des diagnostics réalistes, lesquels ont été écartés depuis des années. On nous dit tout le temps, tout va très bien, n'est-ce pas ? Nous avons le meilleur taux de fécondité d'Europe avec l'Irlande,
oui, il y a un discours,
etc. Or, nous avons voulu être réalistes et de ce fait, faire des diagnostics qui ont fait grincer des dents.
Alors, je cite une de vos phrases, en effet, « Notre méthode, dites-vous, partir des faits et se méfier des idées reçues. »
C'est
ça. Je la résume bien.
Alors, pour commencer par justement la situation démographique, dans une Europe qui est promise à un vieillissement démographique dramatique, la France, jusqu'ici, fait bonne figure. Hein. Alors, il faut savoir qu'elle doit la relative bonne tenue de sa natalité à une sorte de conjonction bénéfique. D'une part, une tradition du travail des femmes qui s'est bien adaptée à ce que j'appelle la tertiarisation de l'économie, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus agricultrices ou ouvrières, elles sont maintenant dans les services, les bureaux, etc. Et là, elles se sont admirablement bien adaptées. Et d'autre part, autre donc atout, c'est les restes de la grande politique familiale qui a été votée à l'unanimité, sans même une abstention, à la Libération. Et même si cette politique familiale est écornée, elle était, il n'y a pas longtemps encore, critiquée par nos voisins pour son inspiration qu'ils disaient nataliste. Maintenant, elle fait figure de modèle en Europe. Vous voyez, avec l'Allemagne qui vient de faire des élections, et le grand sujet a été justement l'impossibilité de l'Allemagne de pouvoir avoir une politique de développement durable, étant donné sa catastrophique situation démographique.
Et pas de développement durable. Sans enfants, c'est comme un slogan qui revient
absolument,
dans votre livre.
Absolument.
Je l'ai lu en effet, Madame
Alors, Sullerot. Alors, cette politique qui a été votée en 1945 et qui nous a protégés, c'est surtout par ce que nous appelons son volet universel, c'est-à-dire des allocations familiales et un quotient familial qui réduisent les inégalités entre foyers avec enfants et foyers sans enfants pour tout le monde, les riches, les pauvres, pour tout le monde, universel.
Voilà, oui, oui.
Et une école maternelle unique au monde, par son extension, il y en a partout, par sa gratuité, il n'y a pas un seul autre pays où les jardins d'enfants, etc., ne soient payants. et par son excellence, parce que tout de même, c'est une excellente école.
Et vous tenez à ce volet universel, c'est-à-dire alors, votre rapport ne suggère pas de manquer.
Nous vraiment sur ce volet universel. Il nous semble qu'il est un capital précieux qu'il faut à tout prix maintenir. Et si on essaye de l'écorner en le convertissant en une politique de réduction des inégalités de revenus, là, la politique de familiale universelle réduit les inégalités entre foyers sans enfants et foyers avec enfants. Mais si on veut, avec l'argent, finalement, de la politique familiale, réduire les inégalités de revenus, on va perdre sur les deux tableaux, sur le tableau démographique et sur le tableau démocratique, puisqu'on aura une sorte de prime pour les gens sans enfants. Et la politique de lutte contre la pauvreté est une politique qui doit s'ajouter, mais non pas se substituer. La politique familiale ne peut pas être une politique de pauvreté, parce que le ciblage sur les pauvres finit par avoir des effets pervers. Je pourrais vous en donner des exemples. Et donc, nous essayons de rendre bien clair, la politique familiale et sociale sont deux choses différentes. La politique familiale a un volet universel pour tout le monde, horizontal, corrigeant donc les inégalités entre familles avec enfants, et vertical pour, par exemple, des allocations sous conditions de ressources quand elle veut tenir compte des inégalités de revenus.
Et ça n'est pas pareil que la politique sociale. Donc c'est bien
alors,
ce que vous démontrez dans ce rapport.
Exactement. Alors, nous avons donc observé que malgré les excellentes dispositions que nous avons reçues de la Libération, maintenant elles ne sont plus suivies et le niveau de vie des familles diminue avec le nombre d'enfants. Disons qu'en moyenne, le premier enfant fait perdre 10% du revenu de niveau de vie, le deuxième encore 5% et en plus, 10% par enfant à partir du troisième.
Ça veut dire que plus on a d'enfants, plus le niveau de vie de la famille diminue.
Baisse. Ça explique pourquoi nous assistons à une diminution constante du nombre des familles nombreuses. Or, les familles nombreuses sont absolument nécessaires au remplacement des générations. Bon, il y a actuellement presque 20% de femmes qui n'ont pas d'enfants. Qui restent infécondes. Et il y en a 10% qui ont un enfant. Donc, vous vous rendez compte, il nous faut au moins 10% de femmes qui en aient 4.
Ben oui, au moins 4.
Voilà. Simplement 4.
4, ça suffirait. Bon.
Et donc, ces familles nombreuses, c'est là que le bas blesse, c'est là que la diminution est la plus nette. Et nous avons voulu voir, du point de vue économique, ce qui se passait. Et c'est clair que la politique familiale actuelle ne permet pas de conserver un niveau de vie équivalent avec le nombre d'enfants.
Mais alors, quelle est la classe sociale qui est touchée justement? Est-ce que ce sont les gens
alors,
les plus aisés ou les plus pauvres?
Nous avons quand même des impôts, des transferts, etc. qui, en principe, égalisent le tout. Or, ça n'est pas le cas parce que nous avons fait des calculs qui montrent qu'après les impôts et les transferts, parce que les familles avec beaucoup d'enfants payent moins d'impôts, n'est-ce pas? Le niveau de vie d'une famille avec 4 enfants est en moyenne inférieur de 35% à celui d'un couple sans enfants. Or, les familles nombreuses sont en général modestes. Presque la moitié des familles de 4 enfants et plus est de référence ouvrière. Et elles constituent en France, le plus fort contingent de pauvres au sens monétaire, le sens défini par les économistes, c'est-à-dire ceux qui gagnent moins que la moitié du revenu médian. Donc, au final, il y a 2 fois plus d'enfants pauvres de moins de 18 ans dans les familles nombreuses qu'il n'y en a dans les familles monoparentales. Or, personne ne s'occupe des familles
nombreuses. En fait, oui. Ça veut
exactement
dire que les économistes, les statisticiens, tout ça, s'occupent beaucoup des familles monoparentales.
Même pour trouver dans les statistiques les familles nombreuses, c'est extrêmement difficile. Parce que les statistiques, maintenant, sont établies de façon très curieuse. Par exemple, si vous voulez chercher la composition des familles selon qu'ils sont mariés ou pas mariés, vous ne pourrez pas le trouver. Quand le père et la mère vivent avec leurs enfants, ça s'appelle famille traditionnelle maintenant dans les statistiques.
Donc en fait, ce n'est pas un intéressant et on n'en tient pas trop.
Non,
compte.
C'est traditionnel parce que vivre avec ses enfants, c'est traditionnel. Voilà, donc qu'on soit marié ou pas marié.
Bon, ça veut dire que les chiffres ne sont pas facilement accessibles pour parler des familles à enfants multiples, enfin nombreux.
Pas accessible, mais que il y a une production statistique qui est idéologiquement
tournée vers les familles monoparentales, disons, voilà.
Oui, et pas seulement.
Voilà.
Disons que l'information sur les familles nombreuses est extrêmement rare, elle est dispersée et nous voudrions appeler à un effort pour que soit mieux étudiée cette catégorie de familles qui est indispensable, n'est-ce pas, pour
le renouvellement des générations, comme vous le disiez.
Alors, nous pensons que, comme nous avons reçu du passé ce formidable politique familiale qui a permis les Trente Glorieuses, parce que c'est parce qu'on avait cette politique familiale et qu'on a eu un niveau d'enfants, enfin presque trois par femme, hein, qui était un moteur du développement et de l'économie.
Qu'on a eu une richesse économique pendant les années 70.
Et donc, nous pensons qu'il faut maintenir solidement cet acquis et peut-être le compléter. Parce que il y a actuellement cet acquis, c'est aussi ce qu'on appelle le quotient familial, c'est-à-dire l'impôt sur le revenu est familialisé, c'est-à-dire qu'il est divisé par un certain nombre de parts si on a des enfants.
Donc Mais ça existe alors. Et donc vous faites une proposition supplémentaire.
Ça existe depuis 1945 et je me permets de rappeler que ça a été voté par de l'extrême droite à l'extrême gauche.
Par tout le monde.
Tout le monde.
Tous les partis.
Voilà. Or maintenant nous avons un nouvel impôt.
Oui,
qui s'appelle
CSG,
la CSG.
Oui.
Et l'impôt de la CSG représente actuellement 120% de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire qu'elle rentre davantage d'argent que l'impôt sur le revenu. Et comme elle n'est pas modulée selon le nombre d'enfants, eh bien, on peut dire qu'elle participe à la paupérisation relative des familles avec enfants.
Alors, votre rapport suggère, Madame Sullerot,
que l'on familialise la CSG. La CSG, c'est-à-dire qu'on fasse entrer, ça j'y viendrai au moment où je parlerai justement des propositions, parce que là, nous en sommes au constat et nous avons eu énormément de peine à nous procurer des chiffres qui n'existaient pas, qu'on pouvait trouver nulle part et qui montrent que les familles nombreuses paient en proportion deux fois plus de CSG que d'impôts sur le revenu. Alors, vous ne le trouverez nulle part ailleurs, puisqu'il a fallu aller le chercher dans des comptes très embrouillés.
Donc ça, j'ai l'impression que c'est tout de même quelque chose d'important dans votre rapport. Enfin,
qui
a été bien accueillie, et effectivement,
qui a été bien accueillie,
a attiré l'attention
mais
sur ce point.
Étant donné que je viens de dire que nous avons eu beaucoup de mal à trouver les données, là, c'est vraiment le point où les données n'existaient pas.
Il y a une vraie révélation, j'allais dire,
il a fallu aller chercher.
Rapport présente.
Donc, pour donner une image de ce problème, les ménages sans enfants de moins de 60 ans représentent le quart de la population, mais bénéficient du tiers des revenus, toujours après transfert. Hein. Alors que les familles avec enfants font 54% de la population, mais elles ne touchent que 43% du revenu disponible. Donc, on voit bien
On voit très bien qu'on n'a pas intérêt financièrement à avoir des enfants.
On n'a pas réduit donc cet écart et qu'il faut vraiment le prendre en compte si on veut relever l'élan démographique.
Et là, c'est une véritable décision politique
Alors,
qui
s'impose. C'est dans cet esprit que nous avons proposé donc, d'attribuer une demi-part par enfant pour la CSG, et comme tout le monde sait que la CSG est susceptible d'augmenter très facilement, eh bien, on aimerait bien que, justement, elle n'augmente pas de façon comme ça exponentielle pour les familles avec enfants.
Et la décision dépend maintenant donc du gouvernement et donc du Premier ministre. Avez-vous la sensation que...
Il y a déjà des propositions de loi.
Donc, ça a une chance d'aboutir.
Alors, toujours dans cet esprit d'équité fiscale, mais parce que nous pensons que les pouvoirs publics doivent s'intéresser aux familles avec enfants, mais être neutres vis-à-vis du statut matrimonial des conjoints, disons que ça ne regarde pas l'État, qu'on soit marié, pas marié, etc., nous proposons également de ramener le coefficient conjugal de l'IRPP, de 2 à 1,7. C'est-à-dire que jusqu'ici, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a eu une campagne pour le PACS. C'était pour que les gens qui se paxaient puissent profiter de ce qu'ils appelaient les avantages
bien
du
sûr.
Mariage. Mmh. Bon. Or, est-ce que c'est justifié? Est-ce que la puissance publique a à se mêler de savoir qu'il faut payer et donner un avantage fiscal? Donc, pour la puissance publique, c'est payer de l'argent à des gens simplement parce qu'ils sont ensemble. Nous, nous pensons qu'étant ensemble, ils font des économies d'échelle, puisqu'ils vivent ensemble. Ça coûte moins cher de vivre ensemble à deux que de vivre deux séparés. Et donc, nous ne voyons pas pourquoi on pourrait continuer à, en somme, favoriser uniquement le couple. Si nous parvenions à cela, les économies qui seraient réalisées ainsi, on pourrait les reverser justement sur les familles nombreuses qui ont vraiment besoin d'eux.
Evelyne Sudreau, je vous propose que nous nous retrouvions dans un court moment après une pause.
Canal Académie.
Evelyne Sudreau, nous nous retrouvons de nouveau dans cette émission Éclairage sur Canal Académie. Vous étiez en train de nous expliquer qu'au fond, il vaut mieux aider les familles avec enfants que les gens qui ont choisi de vivre en couple sans enfants.
Voilà.
Ce qui paraît politiquement une mesure importante.
Voilà. Et je voudrais signaler que comme notre approche de la famille est finalement économique, puisque c'est pour le Conseil d'analyse économique, nous voulons faire remarquer que la famille fait faire de sérieuses économies à la collectivité en élevant les enfants. Parce que si on est obligé de placer un enfant dans une famille d'accueil ou même dans un organisme public, eh bien, ça va coûter très cher. On estime que les allocations familiales, etc., représentent à peu près une dépense de 2 500 € par an et par enfant. Mais s'il faut le placer dans une famille d'accueil, ça va être 15 000 €. Et si on le met dans un organisme public, c'est 30 000 € par an.
Donc la famille, finalement, coûte moins cher
la famille
à l'État
remplit une
quand
fonction,
elle remplit sa fonction.
Elle remplit une fonction qui n'est pas rétribuée, mais dont on s'aperçoit que finalement, elle est très importante pour l'État. Et bien sûr, il n'y a pas que cela, il y a aussi tout le, j'y reviendrai, l'intérêt pour l'enfant. Mais à l'heure actuelle, on s'aperçoit qu'il y a un fort désir d'enfant chez les hommes et les femmes en France, mais qu'il y a un écart entre le désir et la réalité, et principalement de la part des femmes qui maintenant, grâce à la contraception, peuvent reculer une naissance, et quand elles n'arrivent pas à conjuguer, à concilier la vie familiale et la vie professionnelle. Or, je l'ai dit tout à l'heure, le taux de travail féminin en France est bon, et c'est un atout précieux, il faut l'encourager, et il n'empêchera pas les naissances si nous inscrivons vraiment les mesures permettant justement la conciliation vie familiale vie professionnelle en priorité. C'est d'ailleurs ce que recommande l'OCDE, c'est ce que recommandent absolument tous les organismes internationaux et européens. Alors, tout le monde en parle, mais il faut essayer de savoir quelle philosophie, quelle priorité choisir. Et nous pensons qu'il faut être le plus souple possible dans les modalités offertes aux familles et aux femmes particulièrement pour concilier leur vie professionnelle et le travail. Et par exemple, il y a une illusion qui est récurrente qu'il faudrait des crèches et puis si on avait assez de crèches, etc. Or, aucun pays au monde n'a jamais réussi à réaliser le tout crèche. pour les jeunes enfants et je pourrais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a des obstacles, par exemple, pour trouver les personnes s'occupant des tout-petits, pour les trouver, les former, etc. Donc,
le tout-crèche, ce n'est pas une bonne solution.
Dans les pays scandinaves, où les municipalités disent aux familles que du moment où elles ont un enfant dans la municipalité, l'enfant sera gardé, eh ben, ça n'est pas du tout réalisé.
Mais par contre, est-ce que les entreprises ne pourraient pas être concernées par faciliter cette conciliation ?
Les entreprises ne le sont pas assez en France. On appelle aux États-Unis et ailleurs, on appelle les entreprises qu'on appelle « friendly »,« family friendly », celles qui sont les amis de la famille.
Qui aiment les familles, voilà.
Voilà. Il est certain que, par exemple, des entreprises pourraient prendre en commun à plusieurs entreprises des places de crèche, pourraient faire des tas de choses pour les familles. Ça, il faut absolument qu'elles s'en rendent compte. Mais il y a aussi un autre acteur dans cette conciliation, c'est le père. Notre rapport étant à la fois démographique et économique, je voudrais faire remarquer que les pays développés, où les pères ne s'impliquent pas dans la vie domestique, sont en très mauvaise situation démographique. C'est le cas du Japon ou de l'Espagne. Parce que les femmes qui savent que si elles ont des enfants, le père ne les aidera pas, eh bien, ou elles ne se marient pas, comme au Japon, ou elles ne font pas d'enfants, comme en Espagne.
Donc, le père est aussi un paramètre extrêmement important.
C'est un paramètre extrêmement important. Disons que le partage des responsabilités dans la vie domestique, c'est devenu une condition du désir des femmes d'avoir des enfants. Et ce désir restant fort, heureusement, nous avons des hommes qui commencent à comprendre, dirais-je.
Qui s'investissent
mais
plus,
il faut se dire que c'est mesurable et que les pays qui n'ont pas compris cela vont dans le mur démographiquement.
Alors, Evelyne Sulreau, est-ce qu'il y a aussi un moment où les femmes décident donc maintenant d'avoir des enfants ? Est-ce que ce moment est retardé ou avancé par rapport à la période que vous avez connue après la guerre, par exemple ?
Vraiment, un des problèmes les plus importants actuellement, c'est le retard continu de l'âge de la mère au moment où elle a son premier enfant. Actuellement, c'est seulement à 28 ans en moyenne que les Françaises ont leur première maternité et à 31 ans si elles ont fait des études. Bon. Donc, on comprend bien que retarder les naissances va réduire le nombre de familles de 3 ou 4 enfants, parce que quand on commence le premier à 32, 33
ans... Après, devient un peu plus difficile.
Je voudrais faire remarquer que retarder les naissances ne résout absolument pas les problèmes de garde des enfants qui restent les mêmes. Et ça, véritablement, des répercussions graves. Nous voyons que la génération des femmes nées en 70, par exemple, ne se reproduira pas. À partir de à peu près des femmes nées en 68, 69, 70, on voit qu'elles ont tellement retardé le début de leur carrière génésique parce qu'elles ont l'impression que, bon, la médecine et la science s'étant bien mêlées de leurs affaires, avec la pilule, elles peuvent ne pas avoir d'enfants et du moment où elles l'arrêteront, elles auront des enfants, sinon elles iront de nouveau voir des médecins et elles auront des enfants. Or, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et qu'il faudrait véritablement se rendre compte que si les femmes ont leurs enfants de plus en plus tard, c'est que les problèmes des jeunes ménages sont mal résolus, particulièrement le chômage, l'emploi,
etc. Donc là, il y a
etc.
encore un problème politique qui peut aider à résoudre ce problème du retard du premier enfant.
C'est ça.
Donc, on le disait tout à l'heure, la famille est bien une affaire publique dans la mesure où elle compte, elle tient compte des enfants. Mais par contre, vous estimez dans votre rapport, Madame Sulreau, qu'elle n'a pas à se mêler du choix des adultes dans la manière de vivre, en vérité.
Exactement. Et par exemple, nous déplorons certaines allocations, comme l'allocation de parents isolés, qui finit par payer la séparation et provoque des séparations On voit dans les milieux très pauvres des femmes à qui on dit « dites à votre conjoint de ne pas reconnaître l'enfant, comme ça vous toucherez une allocation de parents séparés ». Ce n'est pas à la puissance publique de récompenser telle ou telle forme de vie de famille.
Mais on le suppose qu'elle l'a fait dans le souci d'aider la personne qui aurait pu se trouver seule, démunie avec un enfant. C'était dans un autre état d'esprit, sans doute.
Oui et non. Disons que c'est parce qu'on a confondu une politique de pauvreté et une politique familiale. Donc, cette femme isolée doit toucher quelque chose parce qu'elle est pauvre, mais pas parce qu'elle est séparée. Voilà. Donc, maintenant, le fait des séparations est devenu dramatique dans ses conséquences. En ce sens que maintenant, nous avons 40% des gens mariés qui divorcent. Et il faut y ajouter les séparations de concubins qui sont encore plus précoces et encore plus fréquentes que les divorces. Et que tout cela représente de plus en plus d'enfants qui voient leurs parents se séparer avant d'avoir atteint l'âge de 16 ans.
Alors on disait un enfant sur quatre.
Actuellement, c'est 30%. Nous allons vers 2008, nous aurons un enfant sur trois.
Un enfant sur trois qui verra
ses parents séparés. Et donc, toute sa vie doit être réorganisée. Et nous avons donc voulu étudier ce qui advenait des enfants dont les parents sont séparés, parce que maintenant nous avons un recul suffisant, il y a des masses d'enfants dans ce cas, et donc on peut faire état de grandes recherches et études sur ces enfants. Et alors on s'aperçoit qu'ils ont des résultats scolaires moindres, par exemple, quel que soit le niveau socio-économique du foyer. Ils font des études plus courtes, ils ont moins souvent leur baccalauréat, etc., etc. Mais c'est surtout dans le domaine de la santé qu'on a des preuves, si vous voulez. D'une part, la santé physique est
ébranlée,
plus souvent
oui.
ébranlée, par exemple, où on trouve plus d'anorexique ou de boulimique.
Oui.
Et surtout, la santé psychique.
Avec des tentatives de suicide et tout ça.
Des idées suicidaires qui sont nettement plus nombreuses, ainsi que même aussi dans les familles dont les parents se disputent beaucoup, si vous voulez, ou dont les parents sont séparés. Et donc, on voit aussi la prise...
Là, il y a un problème social, véritablement.
Il y a un problème médico-social. C'est une affaire de santé publique.
Oui.
Et donc, on y ajouterait d'ailleurs le problème purement social des conduites difficile avec la délinquance qui n'est pas loin. Les juges, par exemple, nous avons auditionné des juges pour enfants, voient défiler les enfants sans père, des enfants, il n'y a pas de père au foyer, etc., etc. Et donc, on se perçoit que si le droit civil, vous le disiez dans votre introduction, a bien maintenant tenu compte des mœurs,
des évolutions,
et des évolutions, et s'est adapté à tout cela. La politique
familiale,
sociale, familiale,
non.
Or, il y a un gros effort à faire si on veut justement que ces enfants-là ne souffrent pas et ne soient pas, on les retrouve donc dans des domaines. École, santé et socialisation, où ils posent des problèmes. Et donc, en résumé, je crois que tout ce que nous venons de voir ne peut pas se faire tout seul. Il faut une forte volonté politique. Ça ne se fera pas de soi-même. Et donc, c'est pour susciter cette volonté politique que nous avons fait ce rapport.
Merci Evelyne Sulraux. Je rappelle donc que votre rapport publié avec Michel Godet s'intitule « La famille, une affaire publique ». Il a été présenté au Premier ministre et au Conseil d'analyse économique. Il est publié à la Documentation française en cette fin d'année 2005, donc on peut se le procurer aisément. Et je crois qu'on a tout intérêt, en effet, à prendre conscience, grâce à ce rapport, des faits et non pas des idées toutes faites. Madame Sulraux, merci de nous avoir éclairés et j'espère qu'on vous retrouvera une autre fois sur ces sujets tout à fait intéressants et importants pour notre société.